Vous savez que la tradition orthodoxe est une tradition qu'on redécouvre, me semble-t-il, aujourd'hui, depuis quelques décennies aussi, qui est une tradition spirituelle extrêmement riche. Alors, on ne va pas développer ça, il y a toute une grande tradition liturgique avec une manière de voir les choses toutes différentes. Vous savez qu'actuellement, c'est vraiment d'actualité. Là, le pape est à Byzance ou à Constantinople ou à Istanbul, comme vous voulez, mais il y a la rencontre là. Et puis, on pourrait dire qu'il y a deux expressions de la spiritualité qui ont connu beaucoup un rayonnement très vaste, hein, très grand. On pourrait dire en gros, c'est les icônes d'un côté. Alors, je sais bien que pour les protestants, ça mériterait quelques explications, mais on ne va pas parler de ça. Et puis, la prière du cœur. Alors, prière du cœur, prière de Jésus, en fait, ce sont deux formules qui veulent dire exactement la même chose. Simplement, elle souligne deux aspects différents d'une même forme de prière, puis après, alors, on va rentrer dans cette forme de prière. Quand on dit prière de Jésus, on fait allusion à une forme de prière courte, relativement répétitive, et qui a en son cœur le nom de Jésus. Hein, donc, prière de Jésus, on pourrait presque dire plutôt prière à Jésus. On dit prière de Jésus, mais voilà. Sous des formes diverses, on le verra. Quand on dit prière du cœur, on parle de la même chose, mais on parle de cette prière comme étant une prière qui n'est pas simplement une prière de la langue. Donc on ne prononce pas simplement des choses, quelquefois on ne les prononce pas du tout d'ailleurs, qui n'est pas simplement une prière de l'intelligence, mais qui est une prière du cœur au sens biblique du terme. Vous savez que le cœur, au sens biblique du terme, c'est l'être profond. Hein. C'est le centre, en quelque sorte, de la personne. Et donc, dans cette vision des choses, la prière doit devenir prière du cœur, c'est-à-dire une prière qui vient de notre être intérieur, qui n'est pas simplement une formule. Vous savez, il y a une formule de Calvin qui ne parlait pas du tout de la prière de Jésus, vous vous en doutez un tout petit peu. Je pense qu'il ne savait même pas que ça existait à l'époque, les communications étaient moins développées. Mais une formule de Calvin que j'aime beaucoup dans le... dans un petit livre dont le nom m'échappe, mais qui reviendra sûrement un jour, même probablement aujourd'hui, qui dit... quand il s'agit de prier, il ne s'agit pas de prier de la langue ou de la gorge, mais du cœur. C'est-à-dire que la parole qui est prononcée vient de la profondeur de l'être. Et on sait bien, on le sent bien, même, je dirais d'une certaine manière, que c'est vrai. Alors, pourrait être dit prière du cœur, au fond. Toute prière de ce type, qui s'exprime à travers une formule assez brève, parce que c'est pas le grand discours qui compte, hein. C'est l'attitude intérieure, c'est l'attitude du cœur, mais d'une certaine manière, quelle que soit la formule, bien au-delà de la formule qui emploie le nom de Jésus. Et on pourrait très bien avoir une prière du cœur qui utilise des expressions comme Seigneur, comme Père, comme notre Père, etc. Alors ce qui est très impressionnant, c'est que, j'ai envie de dire, c'est une immense et vieille tradition. On pourrait dire qu'elle s'enracine à peu près là où finit ce que vient de dire Linda, c'est-à-dire au tout début du christianisme, et elle va jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est impressionnant, c'est que grâce à la révolution russe, le « grâce » est à mettre peut-être entre gros guillemets, hein, cette tradition qui était une tradition strictement orthodoxe et qui était une tradition pendant très longtemps monastique, puis qui s'est répandue dans le monde orthodoxe et principalement dans le monde russe, grâce à la révolution russe, et vous savez, à l'exode qu'elle a entraîné, et l'arrivée d'immigrés russes en Europe occidentale, puis ensuite aux États-Unis, finalement, ce mode de prière s'est développé de manière très large, et est devenu finalement un héritage commun du christianisme interconfessionnel. Et on voit beaucoup de protestants, d'anglicans, et protestants alors... luthériens réformés, évangéliques de tout poil, anglicans, catholiques, qui pratiquent aujourd'hui la prière de Jésus. Et si on regarde les livres qui en parlent, on s'aperçoit qu'il y a des livres de toutes sortes qui sortent aujourd'hui, y compris le dernier que je n'ai pas dans ma biographie d'ailleurs, mais qui est un très bon petit livre catholique écrit par un carme sur la prière de Jésus, qui est tout à fait remarquable. Alors, pour commencer, pour rentrer un peu dans ce que peut être la prière de Jésus, je vais commencer par vous parler d'un petit livre, qui est le livre qui a répandu en quelque sorte ça un peu partout. C'est ce qu'on appelle le récit. Ah, bon. Je n'ose pas le prendre parce qu'il est en train de coincer un micro. Mais voilà, vous le trouveriez là. C'est un petit livre qui s'appelle Le récit d'un pèlerin russe. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui l'ont lu. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'éditions de ça. Vous trouvez ça en livre de poche, c'est facile. Alors, je ne saurais trop vous encourager à le lire. Si jamais vous aimez les romans russes, vous trouvez ça. Voilà, c'est vraiment un récit. Ça présente l'histoire d'un homme qui s'est transformé, comme ça arrivait beaucoup dans la Russie du 19e siècle, hein, qui s'est transformé en pèlerin. Alors il a quitté son métier, il a quitté sa famille, il part sur les routes, et on voit décrit là de manière très simple, très accessible, mais en même temps très sympathique sur le plan littéraire, hein, le monde de la Russie, des petites gens, des intellectuels, etc. Et ce pèlerin, il va se balader un peu partout, il va de lieu en lieu, de lieu de pèlerinage en lieu de pèlerinage, et puis son problème fondamental, vous savez, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait le problème, je ne sais plus de qui c'était d'Antoine, là, une parole, il avait entendu une parole d'évangile, là, il a entendu un jour, dans une église, un prêtre qui prêchait sur la parole de Paul, prier sans cesse. Et sa question c'est, oui mais comment on fait? C'est une bonne question quand même. Il n'y a pas que la Russie de l'époque pour se poser ce genre de questions. Et alors, il va aller trouver des prêtres, il va aller trouver des théologiens, il va aller trouver des gens très bien, des grands intellos, etc. Et c'est rigolo parce que tous ces braves gens lui font les réponses que la plupart d'entre nous ferions si on nous posait cette question. C'est-à-dire des réponses qui sont à la fois un peu emberlificotées, un peu gênées, intelligentes et inefficaces. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, on sait qu'il faudrait, mais voilà. Jusqu'au jour où il va tomber sur un starets. Alors les starets, ça ne dit pas grand-chose. Dans la tradition orthodoxe, le starets est un personnage très important. Peut-être que certains d'entre vous ont lu les frères Karamazov de Dostoïevski. Et dans les frères Karamazov, vous avez un magnifique, un roman à la fois fouillis, touffu, passionnant, pas si facile à lire que ça, mais il y a des choses magnifiques, et dans les choses magnifiques des frères Karamazov, il y a le Staret Zosim, je l'ai présenté, qui est un très beau passage. Vous savez, il y a une vieille tradition monastique dans la tradition orthodoxe, et puis dans la tradition russe, et alors le Staret, c'est en général quelqu'un qui a d'abord commencé par être un moine, j'allais dire comme tout le monde, comme tous les autres. Et puis, au bout d'un certain temps, il va partir en ermite, au fin fond des grandes forêts russes, vous savez. Et là, il va avoir il va vivre la vie seule pendant une longue période, vie de prière, etc. Et puis à la fin de ce temps, il va revenir dans son monastère. Donc il va retrouver les autres, mais d'une manière très particulière, c'est-à-dire qu'il va avoir un ministère, on pourrait dire charismatique, tourné vers l'extérieur. Et on va venir le voir. Et on, c'est quelquefois l'empereur, le tsar, hein, c'est les nobles, c'est les bourgeois qui vont faire des kilomètres et des kilomètres pour venir le voir, c'est le paysan du coin qui va venir le voir, des tas de gens viennent le voir. Et on va voir là, je dirais, la manifestation d'un service pour l'église, pour le peuple, hein, mais un service, on pourrait dire, charismatique. Hein, parce que, quand on raconte ça, on voit que ce starets, à cause de sa sagesse, finalement, il va souvent répondre à la question avant même que la question soit posée, il va discerner, il va avoir un don de discernement pour voir ce qui se passe un peu dans le cœur des gens, etc. Donc, un personnage clé dans la tradition russe, pas simplement clé donc à l'intérieur des monastères, hein, mais un personnage clé, c'est le sage, au plus profond, au plus beau sens du terme, qui à la fois est un maître spirituel, mais aussi quelqu'un, l'homme ressource en quelque sorte qu'on va trouver quand on ne sait pas très bien, quand on est un peu perdu aussi. Et on retrouve là quelque chose qui est très proche du père du désert, quand vous aviez les gens qui faisaient un long trajet pour aller dans le désert et puis pour dire là-bas au père dans le désert, dis-moi une parole, voilà, et puis ils repartaient avec la petite phrase ou le paradoxe ou le truc un peu bizarre ou le truc tout simple qui lui a été dit, et puis voilà, il fallait le mettre en pratique. Alors, je reviens à mon pèlerin, il rencontre ce Starets qui lui dit, ben écoute, tu as frappé à la bonne porte. Mais d'abord, il rencontre d'abord un moine qui lui dit, tu as frappé à la bonne porte, parce que dans notre monastère, il y a un Starets qui lui va te raconter ça. Et il va lui apprendre ce que c'est que cette prière de Jésus. Et alors le récit nous montre son apprentissage, il va louer une petite cabane dans un champ à côté du monastère, et là il va commencer à apprendre à prier, et quelque chose qui, alors pour les protestants, c'est la partie qui peut peut-être être un peu difficile, il y a une dimension répétitive. Il y a une formule, on va revenir sur la formule, il y a une formule, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, qui est plus courte quand elle est en russe, mais voilà. Rassurez-vous, elle n'est pas forcément russe. Et il va répéter cette prière. Le but, c'est pas de faire du sport et d'être capable de répéter X millions de fois la prière. Le but, c'est que par la répétition, la prière devienne en quelque chose, en quelque sorte, aussi naturelle que la respiration. Que la prière descende dans le cœur pour que la personne, en quelque sorte, devienne prière. Pas simplement prie, mais devienne prière, et que cette personne puisse prier lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle marche, lorsqu'elle parle avec quelqu'un, etc., que cette prière l'habite en quelque sorte, fondamentalement, essentiellement. C'est bien pour ça qu'on parle de la nécessité du cœur et pas simplement de la lèvre, etc. Alors, je vous lis le tout petit passage, vous devez l'avoir dans la feuille que je vous ai donnée, mais je ne suis pas sûr, mais je crois, le tout petit passage qui, dans le livre, décrit cette prière de Jésus. La prière de Jésus intérieure et constante est l'invocation continuelle et ininterrompue du nom de Jésus par les lèvres, le cœur et l'intelligence, dans le sentiment de sa présence, en tout lieu, en tout temps, même pendant le sommeil. Elle s'exprime par ces mots, « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Celui qui s'habitue à cette invocation ressent une grande consolation et le besoin de dire toujours cette prière. Au bout de quelque temps, il ne peut plus demeurer sans elle, et c'est d'elle-même qu'elle coule en lui. Alors la source pour le Starets qui est là, qui l'enseigne hein, avec beaucoup de bonté, il y a une relation qui se crée là, et la source de cette tradition, c'est un livre que vous pouvez acheter si vous êtes passionné, qui n'est pas un petit livre, hein, qui est un pavé, qui s'appelle la Philokalie. La Philokalie. Enfin, vous avez probablement, vous, des Philokalies. Peut-être que vous en fabriquez une. La Philokalie, c'est un choix de texte. Hein? Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui, à travers notre histoire, il y a des textes qui nous ont marqués. Je ne sais pas si maintenant on les recopie, probablement pas, mais à l'époque, c'était plus difficile de se les procurer. Donc la Philokalie, c'est un ensemble de textes parlant, qui représente au fond le cœur de la tradition spirituelle orthodoxe, ça va des pères de l'Église jusqu'à des auteurs du XVIIIe siècle à peu près. Hein. Donc tout un ensemble de textes, quand c'est traduit en français, ça fait quand même deux gros pavés. Hein. Mais voilà, cette philokalie, elle s'était répandue bien au-delà du monde monastique, hein, chez les gens de cette piété russe. Et donc il va commencer son apprentissage. Et dans son cabanon, là, il va répéter cette prière de Jésus. Et petit à petit, cette prière de Jésus va devenir liée à sa respiration, liée au battement de son cœur. Et puis, au bout d'un certain temps, le Starets va mourir, il va partir, mais il part, parce que je dirais aussi, il a fini ce type d'apprentissage, et il va partir sur les chemins. Et tout le reste du livre, c'est au fond la manière dont cet homme, à travers des rencontres, à travers, il va lui arriver tas de choses. Hein. La vie ne sera pas rose tous les jours, parce que quand vous êtes un pèlerin sur les routes de la Russie de l'époque, voilà, c'est pas garanti que vous arriviez jusqu'au bout de votre voyage. Il va rencontrer tas de choses, et là, on va voir comment cette prière va en quelque sorte l'aider à vivre. Alors, donc elles servent un peu dans le livre, je dirais, hein, de nourriture dans la faim, de boisson dans la soif, de repos dans la fatigue, de protection contre les loups, etc. Mais ne croyez pas que le livre présente une sorte de, comment dire, de rêve idéal où, à partir du moment où je prie la prière de Jésus, vous savez qu'il y a un chant évangélique quand j'étais jeune aussi, mais je ne chantais pas à l'époque, qui disait « Ma vie est un jardin, méfiez-vous de ce genre d'avis quand même. » C'est joli, mais je crois que ça ne correspond pas à grand-chose. Et à moins que votre expérience soit ça, en cas, je m'en réjouis avec vous. Voilà. Et on voit que son chemin n'est pas un chemin rempli de roses, un joli jardin fleuri où tout baigne. Il lui arrive des tas de trucs, il se fait piquer. Alors ça, c'est plus tragique pour lui, il se fait piquer sa Bible et son exemplaire de la Philokalie, mais il rencontre aussi des gens plus louches, il se fait voler, tabasser. Et alors, je vous lis quelques passages, comme ça vous les avez dans le papier, qui sont une sorte de résumé de ce qu'il ressent. Et qui montrent bien qu'on est très loin, très très loin, ça il faut le dire dès le départ, hein, de la bête répétition d'une formule. C'est pas un mantra qu'il s'agit de répéter, c'est pas la répétition mécanique en quelque sorte du tout. Tout mon désir était fixé sur une seule chose, dire la prière de Jésus. Et dès que je m'y adonnais, j'étais rempli de joie et de réconfort. C'était comme si les lèvres et la langue prononçaient d'elles-mêmes les mots sans effort de ma part. Alors je sentis comme une légère chaleur dans mon cœur, un tel amour pour Jésus-Christ dans ma pensée, que je m'imaginais moi-même me jetant à ses pieds, si seulement je pouvais le voir, et le retenant dans mon étreinte, baisant ses pieds avec tendresse, et le remerciant avec larmes de m'avoir permis dans sa grâce et son amour de trouver dans son nom une consolation si grande, moi, sa créature indigne et pécheresse. Alors, vous voyez, juste, je m'arrête là une seconde, hein. Vous voyez que dans cette prière, c'est pas juste la question de répéter une prière, c'est vraiment une prière dans le sens d'une relation au Christ. Et ce qui sort, le fruit de cette prière, c'est précisément ce sentiment de la présence du Christ. C'est au fond, invoque-moi et je te répondrai. C'est, vous savez, celui qui invoquera mon nom dans l'Ancien Testament, c'est très fréquent, on va y revenir. C'est au fond exactement cette idée-là. Je continue. Ensuite survint dans mon cœur une chaleur agréable qui se répandit dans toute ma poitrine. Quelquefois mon cœur éclatait de joie, en quelque sorte, tant il était léger, plein de liberté et de consolation. Parfois je sentais un amour brûlant envers Jésus-Christ et toutes les créatures de Dieu. Parfois, en invoquant le nom de Jésus, j'étais accablé de bonheur et désormais je savais le sens de ces mots, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Et on voit dans le livre que il était accablé de bonheur, mais c'était vraiment pas les événements extérieurs qui lui arrivaient qui justifiaient d'être accablé de bonheur. D'être accablé, oui, mais de bonheur, pas forcément. Hein. Mais donc il y avait une sorte de joie intérieure liée à cette communion au Christ, et on voit bien, à travers ce texte, mais aussi beaucoup d'autres, que cette prière transformée, si on était orthodoxe, on dirait même transfigurée, la relation non seulement avec Dieu, avec le Christ, mais avec les autres, dans la relation avec les autres, et avec la création tout entière. Comme si finalement, la présence du Christ devenait de plus en plus sensible dans la relation à la création de Dieu tout entière. Alors voilà, un livre que je vous recommande fortement. Voilà, on reviendra sur les livres après. Alors, c'est pas lui qui a inventé cette prière. C'est même pas la Starette sans question, c'est une vieille tradition qui s'enracine au fond dans deux traditions qui vont se retrouver, deux courants qui à un moment donné vont se retrouver. Le premier courant, il est profondément biblique. En l'occurrence, je crois que le deuxième aussi, mais je veux dire, le premier courant, il est profondément biblique, c'est toute la dimension du nom. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le nom, c'est quasiment la présence même de Dieu. Et on retrouve dans énormément de textes de l'Ancien Testament cette présence du nom, invoque-moi et je te répondrai, mais le nom est quelque chose de très fort. Ce qui est remarquable, c'est que dans le Nouveau Testament, cette dimension continue avec la personne de Jésus. Vous savez que le nom de Jésus, c'est pas un nom qu'on va chercher parce que Marie et Joseph trouvaient sympathique d'appeler leur enfant Jésus, hein. C'était pas pour faire plaisir à la grand-mère, hein. C'était un nom qui a été en quelque sorte donné par Dieu pour cet enfant qui allait naître, et non seulement donné par Dieu, mais avec un sens, hein. C'est un sens de salut, Dieu sauve, c'est quelque chose de très fort. Et vous rappelez, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, etc., etc. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, etc. Donc, toute une grande tradition, je dirais, de ce côté-là. Autre chose, c'est pour la question de Jésus, et le « aie pitié de moi », c'est quelque chose qui est enraciné aussi dans la tradition biblique. Ce « aie pitié de moi », c'est la demande de l'aveugle, c'est la demande du publicain. Et vous rappelez, dans la tradition de l'Église, hier, nous avons dit à plusieurs reprises dans la prière d'intercession, « Kyrie eleison ». Kyrie eleison, c'est très exactement « Seigneur, aie pitié », en grec. C'est exactement cette tradition qui est centrale, en quelque sorte, axiale, dans toute la tradition liturgique. Et puis, chez les Pères du désert, ça c'est la première tradition, dans la tradition du nom, on pourrait dire. Et puis, la deuxième tradition, qui s'enracine très 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 loin, puisque c'est déjà chez les Pères du désert, et de manière explicite, au point de vue texte, chez Saint Jean Cassien, dont il a été question tout à l'heure, Saint Jean Cassien qui est donc un grand moine, les toutes premières traditions monastiques françaises dans le sud de la France, hein, avec les monastères pas loin de Marseille, Aix-en-Provence, etc. Et chez Jean Cassien, mais lui-même dit qu'il a appris ça des pères d'Égypte, hein, il y avait cette idée d'une prière permanente. Comment faire pour prier sans cesse? On prend une formule qui peut varier, et cette formule, on en fait en quelque sorte son souffle. On la lie en quelque sorte à sa vie, au battement de son cœur, à son souffle. Et les deux formules, je dirais, qui ont été les plus classiques au tout début, c'était soit le Kyrie eleison, soit cette formule du psaume aussi, que là aussi dans la liturgie, on emploie souvent dans les débuts des offices, hein, « Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à toi de me secourir. » Pour Cassien, c'est cette deuxième formule qui est citée. Et au fond, la tradition va... Donc, on remonte là au tout début du christianisme, joindre ces deux formules, c'est-à-dire cette répétition d'une formule courte avec le nom de Jésus. Le Kyrie eleison, dans le Kyrie eleison, le Kyrie Seigneur, c'est bien Jésus implicitement, mais pas explicitement, et on va lier Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Et toute cette tradition, elle va s'étendre en quelque sorte de manière explicite. Alors ce que je vous ai dit, c'est presque la préhistoire de cette tradition. Cette tradition, elle va s'étendre de manière très explicite du 5e siècle au, alors je ne sais pas ce qu'il faut dire, on pourrait dire au 18e siècle si on se limite à la philocalie, mais j'ai envie de dire au 21e siècle, puisqu'aujourd'hui elle a plutôt tendance à se répandre qu'à se réduire. Et cette tradition, elle a un nom que je pourrais peut-être vous mettre là-dessus, ou que tu pourrais peut-être écrire. Bon. L'hésychasme. Et c'est, comme c'est un nom un peu compliqué, alors c'est un nom qui fait très compliqué, en fait qui n'est pas si compliqué que ça, hésychasme. H-E-S-Y.
E ?
Oui, oui. S-Y-C-H-A-S-M-E. S-S, hésychasme. S-M-E. Voilà. En fait, ça vient du mot hésychia qui veut dire repos en grec. Et le mot repos est important parce que toute cette tradition est une tradition, je dirais, de la paix. Quand on parle, vous savez, dans la tradition bénédictine, la paix, la tradition bénédictine, ça c'est plutôt pour après, mais quand on parle de la paix est au centre de cette tradition. Ben, c'est simplement la pax latina, hésychia grecque, quelque chose de très proche. Cette spiritualité, elle met l'accent sur la recherche du silence. Pas le silence extérieur, qui aide bien, mais qui ne suffit pas, mais le silence intérieur. Et au fond, elle commence chez les moines du Mont Sinaï, elle va se développer dans toute la tradition, il y a d'immenses noms. Je vous cite juste quelques noms, mais voilà, ça peut vous aider si vous trouvez ces noms au passage, mais vous avez par exemple Saint Siméon, le nouveau théologien, avec des dates qui ne datent pas d'hier, hein, 949-1022, et puis un peu plus tard, Saint Grégoire Palamas, 1296-1359. Saint-Grégoire, Palamas. Voilà, c'est pas capital. Et le lieu, qui est un peu le lieu pivot de cette tradition et qui va servir de lieu central à partir duquel elle va se répandre dans tout le monde orthodoxe, c'est le mont Athos. Vous avez sûrement entendu parler du mont Athos, hein, c'est une île grecque qui n'est composée que de moines. Un peu machiste sur le bord d'air, que d'hommes, au point que même les animaux, paraît-il, sans garantie, doivent être mâles dans cette. Donc, une île remplie de monastères, avec des ermites un peu partout perdus dans le fin fond des grottes, et puis des immenses monastères. Et vous avez là des monastères russes, vous avez là des monastères grecs, des monastères serbes, des monastères roumains, etc. Ce qui veut dire que des tas de moines partaient du fin fond de leur pays, venaient au mont Athos, passaient des années au mont Athos et repartaient dans leur pays. Ce qui explique au fond la communication aussi facile. Hein. Il y a une sorte de centralisation, de respiration, les gens viennent, repartent et finalement, au fond, communiquent ce qu'ils ont appris. En 1782, va apparaître la Philokalie, à Venise d'abord. Alors je vous dis comme ça, voilà, ce n'est pas du tout à noter, c'est un titre presque amusant. Le vrai titre, c'est Philokalie des pères neptiques, composée à partir des écrits des saints-pères qui portaient Dieu et dans laquelle, par une sagesse de vie faite d'ascèse et de contemplation, l'intelligence est purifiée, illuminée et atteint la perfection. Si vous proposez un titre pareil à un éditeur moderne, là vous êtes sûr que ça passera. Alors, Philokalie des pères neptiques. Neptique, c'est intéressant parce que ça vient de nepsis en grec, qui veut dire sobriété ou veille. J'oserais pas dire éperveilleur, mais il y a un peu de ça. Et donc, l'intérêt de ce bouquin, c'est qu'il va transmettre ce rassemblement de textes spirituels, il va le diffuser. Avant, c'était quelque chose de très compliqué, finalement, d'avoir accès à toute cette tradition. Il fallait avoir des bibliothèques de monastères. Et dans les bibliothèques, il fallait savoir où piocher. Parce que les œuvres des pères, vous savez, c'est des univers. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous entendez comme ça une citation d'un père de l'église absolument géniale. Et on vous dit, c'était tel bouquin. Vous dites, formidable, vous allez prendre le bouquin, plonger dedans. Et vous... Vous vous rendez compte que les citations, on n'écrivait pas comme aujourd'hui, et que la citation géniale des pères était perdue dans les centaines de pages qui avaient sûrement dû être géniales à l'époque, mais qui, aujourd'hui, étaient plus dures d'accès. Là, vous avez, donc, dans cette philokalie, un rassemblement de textes qui permet de communiquer cette tradition, bien sûr aux moines, ça va de soi, bien sûr aux monastères, mais aussi très largement au-delà. Et aujourd'hui encore, donc, cette philokalie s'est répandue. Alors, la pratique de cette prière. D'abord, quel est l'intérêt, semble-t-il, de cette prière? Vous direz qu'il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est la simplicité. C'est une démarche qui peut très bien aider, je dirais, de la prière toute simple et naïve du débutant, de la personne qui ne sait pas du tout prier et qui a très peu de temps, jusqu'au grand mystique perdu dans sa grotte, au fin fond de la Tosse ou d'ailleurs, de la Suisse. C'est à la fois, je dirais, une prière qui peut être une prière contemplative au sens le plus fort du terme, et je crois que ce qui fait son succès, c'est pas ça. Parce qu'il y a d'autres formes de tradition, il y a d'autres traditions contemplatives. Ce qui fait son succès, c'est que c'est une prière qui est parfaitement, me semble-t-il, adaptée à la vie moderne. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un d'entre vous qui disait, ça me paraissait tout à fait pertinent, quelqu'un qui avait passé un certain nombre de mois dans une communauté paisible, au fin fond des Cévennes, dans un endroit où, voilà, le bruit, à part celui du ruisseau et de la voiture qui passe toutes les 4-5 heures, vous n'êtes pas dérangé. Et cette personne faisait remarquer, ô combien pertinent, que le silence intérieur était quand même plus facile dans un contexte pareil que quand on se retrouvait dans l'activité, dans le brouhaha de l'existence, dans la réalité, etc. Ça, c'est vrai. Et je crois que ce type de prière permet, au fond, de vivre ce silence intérieur Mais pas un silence pour le silence, hein. Un silence de prière et de prière orientée vers le Christ. Dans la réalité, dans le stress, dans le métro, dans le bruit, dans le brouhaha éventuellement, dans le stress du travail. Vous savez, y a c'est Linda qui disait qu'elle aimait les paraboles ou les dictons, les proverbes, etc. Il y a un proverbe oriental, alors pas oriental chrétien, oriental, je ne sais pas quoi, très oriental en tout cas, qui dit un truc très juste, hein, qui parle du silence, et du silence intérieur. Et il dit que le silence intérieur, c'est un peu comme vouloir enlever il faut enlever les pensées, les idées qui circulent. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au fond, j'ai pas besoin du bruit extérieur pour avoir du bruit dedans. J'ai un poste radio intégré. Je suis bavard, même à l'intérieur. Et alors, il disait cette chose que je crois très juste, il disait, c'est un peu comme, vous savez, il paraît qu'il y a des arbres à singes. En Inde. Il y a des arbres qui sont remplis de singes. Et enlever les pensées, c'est comme vouloir enlever les singes des arbres à singes. Déjà, il faut un boulot pas possible pour en enlever un. Et quand vous avez réussi à en enlever un, il y en a trois qui sont montés. Et l'idée, la conclusion de ça, c'était, il ne s'agit pas de vouloir absolument faire le silence, il s'agit de concentrer sa pensée sur une seule pensée. Ce n'est pas éliminer les pensées, c'est ramener en quelque sorte sa pensée à une pensée unique. Et cette pensée unique dans la prière de Jésus, c'est l'invocation du nom de Jésus, c'est la prière donc à Jésus. Et dans ce sens-là, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement fort parce que l'intérêt, c'est que ça devienne justement quelque chose de relativement acclimaté en quelque sorte dans notre vie, dans notre cœur, dans notre mode de pensée, de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin d'un effort pour penser à cette prière. Et c'est vrai que ça peut vous changer radicalement votre manière de faire la queue dans un supermarché lorsque vous vous énervez parce que les personnes devant vous passent un temps fou à chercher leur vote. Ou bien quand vous attendez le bus. Au fond, on perd un temps fou dans la vie de tous les jours. On a un temps fou pour prier. On croit qu'on n'a pas de temps parce qu'on dit qu'on n'a pas beaucoup de temps qu'on peut mettre à part au fin fond de sa chambre, tout seul, etc. Mais du temps paumé, on en a plein. Et ce temps-là peut devenir tout à fait un temps de prière. J'ose même faire dire une chose que je ne dirais pas partout, donc je ne le répétais pas. Mais, donc, comme il a été dit, j'ai été pendant 9 ans secrétaire général de la Fédération protestante. J'étais marié, je suis toujours, avec la même personne, mais j'avais des enfants que je n'ai plus, parce que maintenant ils ont grandi. Et donc, un secrétaire général de la Fédération protestante de France, il a un emploi du temps, honnêtement, de fou. Quand il rentre chez lui, il a les enfants. Le temps consacré à la prière est relativement réduit. Par contre, le temps dans le train, le temps dans la voiture, puis il y a une autre chose. Il a beaucoup de commissions et de comités. Et dans les commissions et les comités, vous en avez quelques-uns qui sont absolument fascinants, passionnants, etc. Vous en avez aussi beaucoup qui sont très utiles, mais qui vous laissent quand même pas mal de temps, parce que votre présence est nécessaire, voilà, symbolique quelquefois, active quelquefois, mais au fond, voilà. Et dans ces temps-là, ce type... Alors, avoir un temps pour la prière au sens courant du terme, non, parce qu'il faut en même temps quand même suivre un peu ce qui se passe, et puis voilà, il y a des gens qui parlent. Mais ce type de prière est parfaitement adapté à ce genre de choses. Donc vous voyez, je dis, c'est quelque chose qui est très adapté aussi à toute forme de travail matériel, enfin, mécanique. C'est un tout petit peu plus compliqué, on peut en parler si vous voulez, quand il s'agit d'un travail intellectuel, là c'est un peu différent, mais pour les travaux, la cuisine, etc., je veux dire, des tas de choses qui sont des choses qui demandent une attention, mais pas une attention permanente, c'est quelque chose, je crois, de très, très utile. Et c'est, je crois, une réponse à ce prier sans cesse de l'apôtre. Et vous savez, la prière permanente, il faut se méfier. Quand j'étais jeune, ça fait deux fois que je dis ça. Voilà. En tout cas, avant, on disait souvent, vous savez, le travail est une prière. Hein, j'ai beaucoup entendu ça dans les années 70, à l'époque où il y avait d'un côté ceux qui s'engageaient dans la politique et de l'autre ceux qui priaient. On est sorti un tout petit peu de cette pathologie de dissocier justement les deux. Mais on disait souvent le travail est une prière. C'est le genre de phrase dangereuse. parce qu'elle est fausse et vraie. Elle est vraie dans la mesure où le travail peut devenir une prière. Mais dire que tout travail est une prière, non. Enfin, c'est juste une manière de dire « j'ai pas envie de prier souvent ». Et il me semble que la prière Jésus peut permettre, par exemple, mais elle n'est pas la seule, hein, il y a beaucoup d'autres manières de faire, mais elle est probablement une manière de faire en sorte que ça devienne vrai. C'est-à-dire que le travail, tout travail peut devenir imprégné en quelque sorte de cette présence de Dieu, de cette relation à Dieu. On sait bien que dans la vie spirituelle, quelque chose qui est essentiel, c'est d'être présent à Dieu. Vous savez, il y a une communauté religieuse, cousine ou sœur, je ne sais pas comment il faut dire, des diaconesses de Saint-Loup, qui est la communauté de Pomerol. Et sœur Antoinette Butte, qui a été la fondatrice, elle avait une formule, elle avait un côté un peu scout, hein, donc un peu raide, au bon sens du mot raide. Mais, et alors elle avait cette formule qui dit « être présent à Dieu présent ». Chose très beau. Le problème, c'est que la plupart du temps, Dieu est présent, c'est moi qui n'y suis pas. Hein, c'est vrai, souvent. Et je crois que la prière à Jésus, c'est ça, c'est garder le cœur tourné vers Dieu. C'est garder le Christ présent dans ma vie, mais dans ma vie, pas seulement dans mes moments de prière, mais au fond dans ma vie de manière beaucoup plus large. Tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas du tout d'une question mécanique. Et je sais que pour les protestants, c'est particulièrement important. C'est pas la répétition bête d'une formule, c'est l'orientation du cœur vers le Christ, l'orientation du cœur vers Dieu. Certains d'entre vous connaissent peut-être Laurent de la Résurrection, frère Laurent. Ben voilà, au fond c'est la même chose. Frère Laurent, c'était tout un enseignement, on en parlera alors plus tard, mais tout un enseignement au fond de la présence, de la pratique, de la présence de Dieu lorsque je retourne mon omelette. C'était un type stressé, frère Laurent. Hein. C'était un petit carme du grand couvent de Paris, donc qui est maintenant devenu l'Institut catholique, hein. Et il était le responsable de la cuisine. Quand vous aviez 200 frères ou plus, être le responsable de la cuisine d'un monastère pour chaque repas, pour 200 personnes, je suppose que c'est stressant. Et au fond, lui, il parlait de cette prière qui est une présence de Dieu, présence à Dieu, dialogue avec Dieu permanente. Mais je crois que la prière de Jésus est une manière aussi de vivre ça. Un autre point, je crois, très important, c'est, je crois, la dimension de recueillement, au sens premier du mot recueillement. Vous savez, je crois que notre problème, qui est un problème, je crois, qui est universel et éternel, mais qui est plus grave aujourd'hui, me semble-t-il, que dans le passé. Je crois que le problème, c'est la dispersion. C'est-à-dire qu'on va dans tous les sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, non seulement il y a la publicité, il y a le bruit de toutes sortes, vous rentrez dans un magasin, vous avez nécessairement de la musique, vous en sortez, vous mettez vite vos écouteurs pour brancher votre musique, vous rentrez dans votre voiture, je fais la même chose, hein, vous tournez votre poste de radio, etc. Il y a cette dispersion, on est un peu partout. La prière de Jésus, c'est une manière de se recentrer sur le Christ. C'est de revenir au centre de sa personne. Et je crois que ce recueillement, pour moi, c'est ça. C'est ramener les éléments de notre personnalité dispersés en tous sens vers un centre. Alors peut-être que vous avez un don pour vous recueillir, pour vous concentrer, que c'est très facile pour vous. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de la prière de Jésus. Mais si vous faites partie, comme moi, des gens qui sont naturellement dispersés, aussi parce qu'ils sont passionnés par un tas de trucs, la curiosité, je crois, est pour moi, la curiosité est aussi une forme de l'intelligence, quand même. Je crois. Donc c'est bien d'être curieux. Mais la curiosité est aussi un ferment de dispersion terrible. Et cette prière Jésus, je crois, c'est une manière, justement, un facteur d'unification, en quelque sorte, intérieure. Alors, je vais vous lire un long texte que vous avez, parce que j'ai trouvé que c'est probablement ce que j'ai trouvé de mieux comme résumé. C'est un livre... Alors que quelqu'un d'entre vous doit avoir entre les mains, puisqu'il était là, qui s'appelle La prière de Jésus, et il n'est pas à vendre, je précise. La prière de Jésus, et qui est signée par un moine de l'église d'Orient. Le moine de l'église d'Orient, c'est un type tout à fait étonnant, hein. C'est un pseudonyme, mais un pseudonyme d'un vrai moine, qui s'appelait Lev Gillet, qui était un français. Et qui est un type tout à fait passionnant. Si un jour vous trouvez un énorme livre, un gros livre, intitulé « Un moine de l'Église d'Orient », qui a été écrit par une femme tout à fait étonnante, la théologienne, on pourrait dire. Il y a beaucoup de théologiens orthodoxes, un peu moins de théologiennes, hein, donc c'était une femme qui était une protestante d'origine, pasteur, devenue orthodoxe. Elle a écrit une biographie de ce type, tout à fait formidable, avec une liberté énorme. Alors, ce moine, il a écrit plusieurs livres, qui très honnêtement sont tous très bien, mais un qui s'appelle « La prière de Jésus », qui est un petit livre, qui est composé de deux parties. Une première partie très intéressante, composée de l'histoire de la prière, qui raconte l'histoire de la prière de Jésus, qui dit ce qu'elle est, son histoire, etc. Et puis la deuxième partie, qui est encore plus passionnante, qui est sur une pratique aujourd'hui de la prière de Jésus. Pas du tout l'histoire, mais pour l'homme ou la femme moderne, marié, père ou mère de famille, célibataire aussi évidemment, qui travaille, etc., comment on peut vivre cette prière de Jésus. Et là j'ai fait un extrait en quelque sorte de texte. C'est les pages qui sont soit page 62-74. Il dit ceci, alors je vous le répète parce que je pourrais vous le dire moins bien, ça prendrait plus de temps, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Il appartient à chacun de déterminer sa propre forme de l'invocation du nom. Une christianisation s'est opérée en Orient autour de la formule « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Mais cette formule n'a pas été et n'est pas la seule. Est authentiquement prière de Jésus au sens byzantin, c'est-à-dire au sens orthodoxe du terme, hein, mais bon, pour nous c'est pas capital ça, toute invocation répétée dont le nom de Jésus constitue le cœur et la force. On peut dire par exemple Jésus-Christ ou Seigneur Jésus. La formule la plus ancienne, la plus simple et à notre avis la plus facile est le mot Jésus employé seul. C'est dans ce sens que nous parlons ici de la prière de Jésus. Je trouve ça très intelligent et très beau. Ceci dit, ce n'est pas mon expérience, pour être tout à fait honnête. Je ne suis pas sûr que le mot Jésus employé seul soit nécessairement pour tout le monde et à tout moment le plus simple. Je trouve que quelque chose de plus long peut être aussi plus facile. Mais ça, je dirais après tout chacun. Ce mode de prière peut être prononcé ou seulement pensé. Il se trouve donc à la limite entre la prière vocale et la prière mentale. Aussi entre la prière méditative, c'est-à-dire méditative où il y a effectivement dans la prière la méditation intellectuelle de ce qui est dit, et puis la prière contemplative où on passe, si j'ose dire, de la méditation de la parole prononcée à une contemplation de Dieu, mais ça on aura l'occasion d'y revenir avec Jean de la Croix, Thérèse d'Avila. Il peut être pratiqué en tout temps, en tout lieu, église, chambre, rue, atelier, bureau, etc. On peut répéter le nom en marchant. Et une remarque, je crois, pertinente. Les débutants feront cependant bien de s'astreindre à une certaine régularité dans cette pratique et de choisir des heures fixes, des lieux solitaires, des moments où, dans sa chambre, on va, ou ailleurs, mais dans un endroit calme, on va effectivement consacrer un petit moment à cette prière. Cet entraînement systématique n'exclut d'ailleurs pas l'usage parallèle et entièrement libre de l'invocation du nom. Avant de prononcer le nom de Jésus, il faut essayer de se mettre soi-même en état de paix et de recueillement, puis implorer l'aide du Saint-Esprit, par lequel seul on peut dire que Jésus est Seigneur. Tout autre préliminaire est superflu. De même que pour nager, il faut se jeter à l'eau. Bon, je ne sais pas si dans votre papier j'ai une faute de frappe, mais moi je l'ai. Ainsi faut-il tout d'un coup se jeter dans le nom de Jésus. Ce nom ayant été prononcé une première fois, avec une adoration immense, il n'y a qu'à s'y attacher, y adhérer, le répéter lentement, doucement, tranquillement. Il s'agit de concentrer peu à peu tout notre être autour du nom et de laisser celui-ci comme une tache d'huile pénétrer et imprégner silencieusement notre âme. Dans l'acte d'invocation du nom, il n'est pas nécessaire de répéter ce dernier d'une manière continue. Le nom prononcé peut se prolonger dans des minutes de repos, de silence, d'attention purement intérieure. Tel un oiseau alterne le battement d'ailes et le vol plané. Toute tension, toute hâte doivent être évitées. Si la fatigue survient, il faut interrompre l'invocation et la reprendre seulement lorsqu'on s'y sentira disposé. Le but à atteindre est non une répétition littérale constante, mais une sorte de latence, de quiescence du nom de Jésus dans notre cœur. Vous vous rappelez la phrase du cantique « Je dors, mais mon cœur réveille ». Et que l'on bannisse toute sensibilité spirituelle, toute recherche de l'émotion. Sans doute, il est naturel, et là c'est un point intéressant, je dirais, pour la spiritualité, bien au-delà de notre question, on y reviendra aussi, ça. Sans doute, il est naturel que nous espérions obtenir des résultats en quelque sorte tangibles, que nous voulions au moins toucher la frange du vêtement du Sauveur et ne point le laisser aller qu'il ne nous ait béni. Mais ne pensons pas qu'une heure où nous aurons invoqué le nom sans rien sentir, en demeurant apparemment froid et sec, ait été une heure perdue et inféconde. Cette invocation que nous pensions avoir été stérile sera au contraire très acceptable à Dieu parce que, je trouve la formule jolie, chimiquement pure si l'on peut dire, parce que dépouillée de toute préoccupation de délices spirituels et réduite à une offrande de la volonté nue. D'ailleurs, dans sa gracieuse miséricorde, le Seigneur enveloppe souvent son nom d'une atmosphère de joie, de chaleur et de lumière. Voilà, je pense que ce texte-là, on peut le revoir, le relire, je dirais. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, je trouve qu'il y a beaucoup de choses tout à fait remarquables qui sont dites. On pourrait dire aussi que cette prière de Jésus, elle s'inscrit, comme ce qui a été dit tout à l'heure, dans toute la tradition des pères de l'Église, la tradition de la garde du cœur. Vous savez, il y a cette formule des proverbes, hein, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et si on prend la parole de Jésus, c'est aussi du cœur que viennent non seulement les sources de la vie, mais aussi les mauvaises pensées, meurtres, adultères, etc., etc. C'est dans le cœur, au fond, dans la profondeur de notre être intérieur, que tout se passe. Le meilleur et le pire. On parle de l'abîme du cœur, ou bien certains pères de l'Église, de manière jolie, parler des pâturages du cœur. Dans ces pâturages, ils en parlent des trucs. Et cette parole de la prière de Jésus est, je crois, une manière de participer à cette garde du cœur. C'est une manière aussi de lutter contre les passions. Combien de fois notre imagination nous joue des tours, nos fantasmes nous jouent des tours, et ressortent du cœur des tas de choses qui ne sont pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux en nous. Pas vous, mais moi, ça m'arrive. Et la prière de Jésus, je crois, c'est une manière justement de faire le tri. Je ne l'ai pas noté ça, mais il y a un père de l'Église qui avait cette formule amusante, etc. Il dit, quand vous avez une idée qui vient, il faut que vous tapiez dessus, vous la frappez avec le nom de Jésus. Et puis on voit ce qu'elle dit. Mais dit de manière drôle, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas drôle du tout et qui est tout à fait pratique. Dernier point, pas tout à fait, mais un point important, je crois. Cette prière de Jésus, bien sûr, à certains égards, c'est avant tout une prière de type contemplatif. C'est une prière contemplative. Et si vous regardez les manières dont la prière contemplative va être traitée plus tard, hein, que ce soit de manière très classique avec Jean de la Croix, par exemple, que ce soit de manière plus moderne aujourd'hui, avec la Centering Prayer et d'autres formules plus modernes, au fond, on retrouve des choses extrêmement proches. Quand Jean de la Croix parle de l'attention amoureuse envers Dieu, au fond, je dirais, la prière de Jésus pourrait dire exactement la même chose. Quand Thérèse d'Avila dit « il faut rester silencieux devant Dieu », et puis à certains moments, céder d'une parole, une petite parole pour ramener notre attention à Dieu. Ben voilà, le moine de l'église d'Orient, dans le texte que je viens de lire, il dit la même chose à l'envers. Hein. Il ne parle pas du silence pour arriver à la petite parole, il parle de la parole, mais en disant qu'il faut laisser de la très large place pour le silence. Donc, c'est un élément de prière contemplative. Mais en même temps, ça peut, sous la même forme, avoir beaucoup d'autres aspects. Dans la dimension initiale de la prière, si on la prend au sens le plus complet du terme, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » C'est à la fois une louange et une confession de foi, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Et c'est aussi une prière de repentance. Aie pitié de moi, pécheur. Qui m'aide à me resituer devant Dieu. Et je dirais que c'est une prière à certains égards très calviniste. Malgré les apparences. Je vous dis pourquoi. Le début de l'institution chrétienne, hein, quelle est la somme de la philosophie chrétienne? C'est de savoir qui est Dieu et qui nous sommes. Eh bien, mais c'est très précisément, me semble-t-il, ce à quoi aussi est de cette prière. Hein? Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est savoir qui est Dieu. Aie pitié de moi, pécheur. Voilà. mais aussi c'est une demande d'aide. Je vais vous dire, au début où je pratiquais cette prière, j'avais de temps en temps des bouffées de protestantisme qui remontaient, qui gênaient. Et en particulier un point, c'était celui pitié de moi. Enfin, je le dis avant que vous me le demandiez. Parce que je me disais, mais enfin, bon sang, on est sauvé par grâce. Je sais qu'il a pitié de moi, pourquoi je lui demande tout le temps? Jusqu'à ce que je comprenne que c'est plus compliqué que ça. D'abord parce que, dans la prière de repentance, et dans les liturgies protestantes traditionnelles, bien, il y a une confession des péchés, et dans la prière de repentance, il y a toujours cette légitimité du Seigneur pardon. Mais le « pitié de moi », Kyrie eleison, le mot grec qui est en cause, nous, quand nous traduisons, et c'est la traduction banale, hein, « pitié de moi », nous pensons toujours « pardonne-moi ». Mais en fait, le mot grec est beaucoup plus vaste, c'est « Seigneur, donne-moi ta miséricorde ». C'est « Seigneur, accorde-moi ta bienveillance ». C'est tout autant une demande d'aide qu'une demande de pardon. Si on dit « Seigneur Jésus, aie pitié de moi », on n'est pas nécessairement du tout, semble-t-il, dans la demande de pardon parce que je suis pécheur, mais c'est aussi « Viens à mon aide, Seigneur, à toi de me secourir ». C'est la même idée, je crois, exactement. Et puis, ce qui est aussi très fréquent, c'est que ce « aie pitié de moi » peut très facilement devenir « aie pitié de nous ». Et dès que la prière devient « aie pitié de nous », ça devient une prière d'intercession. Et si vous regardez, si vous baladez dans un bus bondé ou dans un métro et que vous disiez « Seigneur, aie pitié de nous », c'est pas « aie pitié de nous les gens qui sont comme moi », c'est « aie pitié de nous qui sommes là ». C'est une prière pour le monde. Il y a une dimension, je dirais, universelle de cette prière, comme intercession pour le monde, je dirais, on pourrait même dire pour la création, une dimension cosmique, mais en tout cas, une dimension universelle, limitons-nous à ça, c'est déjà pas mal, hein. Une prière pour le monde. Et c'est même une manière, j'ai envie de dire, pas forcément à la répétant ni à conscient, mais je dirais, étant habité par ça, de regarder intelligemment les actualités à la télévision. Non, mais je crois que c'est ça. Parce que vous voyez à la télévision, vous écoutez à la radio, vous voyez dans les journaux, des tas de trucs qui, en général, très souvent, voilà, je vous fais part de toutes mes perversions aujourd'hui, mais évoquent en nous moins l'intercession qu'une sorte de fascination morbide. Si l'ensemble de ce qu'on voit se traduit par une intercession pour, et c'est pas si facile, c'est facile à dire, mais je sais pas si vous êtes comme moi, c'est pas si simple. Quand je regarde la télé, je dis « Ah, je vais intercéder ». Oui, bon, peut-être un jour, mais c'est bon. Tandis que dans cette démarche-là, où on est habité par cette prière et pitié de nous, je crois que c'est quelque chose qui est relativement plus simple, en tout cas, à faire. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, parce que l'heure tourne. Vous dire quelques mots sur la petite bibliographie que vous avez vue qui est à la fin de votre texte et qui est plus riche, bien sûr, hein, que celle qui est dans la bibliographie générale. Alors, un moine de l'église d'Orient, la prière de Jésus, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le texte dont on a extrait la grande partie, là. Voilà, remarquable petit bouquin d'introduction. Récit d'un pèlerin. Alors là, voilà, admirable. Alors, la petite philokalie de la prière du cœur. Je vous ai dit que la philokalie était un très gros truc. C'est ce qui suit. La philokalie d'Éclée de Brouwer, c'est introduit par Olivier Clément. Alors, c'est un texte en deux gros volumes. Le problème, c'est que ça fait 1600 pages à peu près. Donc, n'achetez ce genre de livre que si vous êtes passionné par ça. Parce que ça va être quand même un peu comme les Pères de l'Église. Vous allez avoir des passages absolument géniaux à l'intérieur d'un tas de passages qui sont d'une culture qui n'est quand même pas la nôtre spontanément. Et voilà, vous aurez du mal. C'est vrai qu'entre un moine oriental du 3e, du 5e siècle et une parce que vous êtes majoritaire, mesdames, hein, mais une Suisse du 21e siècle romande, il y a quand même un saut culturel qui n'est pas négligeable. Et voilà, c'est pas... Mais par contre, si vous vous dites, mais j'aimerais bien savoir quand même l'essentiel de ce qu'il dit, vous avez une autre formule qui est le petit livre intermédiaire. Jean Gouillard est un théologien catholique qui a extrait en quelque sorte de la philokalie un ensemble de textes qu'il a jugés principaux. petite philokalie de la prière du cœur. Vous savez, c'est la collection Point Sagesse, donc c'est une collection de poches. Voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus accessible. Ça a un défaut, disent les orthodoxes, ils n'ont pas tort, mais c'est un défaut, je pense, sur lequel on peut quand même passer. C'est qu'il parle surtout de la prière du cœur, et il extrait cette prière du cœur de tout un contexte spirituel qui est dans la grande philokalie, et qui, pour les orthodoxes, donne son sens. C'est vrai, c'est réducteur d'une certaine manière. Mais en même temps, ça vous montre comment ce type de prière a été enseigné depuis les premiers siècles de l'Église jusqu'à la fin de la philokalie. Un autre livre tout à fait admirable, c'est Jacques Serre et Olivier Clément, La prière du cœur. C'est un tout petit bouquin, publié aux éditions Bellefontaine. Il a cite particulier, ben voilà, il est là. Il a cite particulier que Jacques Serre est un pasteur protestant de l'Union de prière de Charmes, donc sensibilité charismatique, et qu'Olivier Clément est un grand théologien orthodoxe. Alors, pour être tout à fait honnête jusqu'au bout, le texte de Jacques Serre est très sympathique. Et le texte d'Olivier Clément est génial. Il y a une nuance, hein, je trouve. D'un côté, il est intéressant parce qu'il montre comment un protestant peut, après un voyage en Russie, découvrir ça. Mais le texte d'Olivier Clément est génial parce que Olivier Clément a cette vertu particulière et rare d'être un occidental devenu orthodoxe. Et qui, donc, quelquefois, a très souvent servi de pont entre deux mondes. Et, encore plus intéressant, tout cet enseignement, c'est un enseignement sur la prière de Jésus qu'il donne à des moines bénédictins, si, sauf erreur de ma part, hein, occidentaux. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des occidentaux habitués à des formes de prière tout à fait occidentales pour leur expliquer ce que la prière de Jésus, c'est un bouquin, je crois, tout à fait riche. Alors, un autre livre tout à fait remarquable, c'est Igoumène Chariton. Igoumène, c'est un responsable de communauté religieuse, de monastère orthodoxe, de Valamo, donc c'est en Finlande, mais Finlande, c'était russe, c'est un monastère russe quand même. L'art de la prière, c'est ce Chariton, qui n'est pas d'une importance capitale là-dedans, sauf qu'il a ramassé des textes, s'est fait un livre avec à ses yeux les meilleurs textes sur la prière de Jésus, meilleurs textes qui sont principalement des textes de Théophane le Reclus, qui est un théologien, un évêque théologien, moine et mystique russe du XIXe siècle. Et là où je trouve admirable, c'est que quand on lit ça, ça élimine radicalement, totalement, tout ce qu'il peut y avoir de mécanique et d'un peu ambigu dans certaines présentations anciennes de la prière de Jésus. C'est très profond, très remarquable. Elisabeth Bersigel, c'était la théologienne dont je vous parlais tout à l'heure, elle a écrit un livre, Le lieu du cœur, initiation à la spiritualité de l'Église orthodoxe. Alors, c'est un très bon livre. Mais, là aussi, ce qu'il y a de mieux dans le livre, je trouve, pour notre sujet en tout cas, c'est l'annexe, qui est un texte de Callistos Ware, qui est un anglais orthodoxe aussi. Et cette annexe, je la connaissais avant qu'elle soit dans le livre, parce que c'était un cours par correspondance de l'Institut Saint-Serge à Paris, de la faculté de théologie orthodoxe. Ça s'appelle La puissance du nom. C'est un cours sur la prière du cœur, très bref, et limpide, je trouve, limpide. Et puis alors, si vous voulez non plus plonger dans la piété et dans le 19e russe, comme avec le pèlerin, mais si vous voulez plonger dans le mont Athos, dans une mentalité orthodoxe grecque, alors il faut lire, c'est paru depuis un livre de poche, hein, de Hieroté Vlachos, Entretien avec un ermite de la Sainte Montagne sur la prière du cœur. C'est très sympathique, c'est là aussi l'histoire de... C'est le prêtre grec qui arrive à Athos et qui va marcher, qui va rencontrer un vieux sage, un vieux moine, et c'est le dialogue. Alors, c'est très hagiographique, c'est très orthodoxe, c'est très grec. Il y a un côté quand même un peu exotique, et derrière ce côté exotique, il y a quand même tout un enseignement très intéressant et très, très intelligent sur la prière. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une partie du discours. Bon, voilà, il faut être quand même un peu grec et un peu moine et beaucoup orthodoxe pour rentrer complètement là-dedans, mais il y a quand même des perles là-dedans aussi, des choses tout à fait remarquables. Voilà. Donc il est l'heure pour vous de prendre la parole.